L'émancipation du Mali de l'occupation militaire occidentale vient d'entrer dans une nouvelle phase ce jeudi, avec cette convocation choc lancée par la justice malienne à l'encontre de l'une des figures françaises les plus impliquées dans les crimes de guerre françaises au Mali, à savoir l'ex-ministre de la Défense et l'actuel chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, dont le mandat à la tête des forces Barkhane a été émaillé de pires épisodes du terrorisme, frappant l'État et la nation malienne. Littéralement choqué par cette convocation au palais de justice du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako, Le Drian écrit: Jean-Yves Le Drian est attendu le 20 juin prochain au palais de justice du tribunal de grande instance de la commune de 3 de Bamako pour être entendu dans une affaire d'attribution de marché public pour la fabrication de passeports maliens, une affaire qui remonte à 2015. Côté français, on dénonce une énième provocation. La convocation date du 20 avril, mais elle est apparue mercredi 11 mai, massivement sur les réseaux sociaux. Si le titre du chef de la diplomatie française est écorché, Jean-Yves Le Drian n'est pas moins convoqué le 20 juin prochain à 8 heures par la justice malienne pour affaire le concernant. Lui et son fils Thomas, dont le nom est également cité, sont soupçonnés d'atteinte aux biens publics et autres infractions aux dépens de l'État du Mali. Et d'ajouter, à l'origine de cette convocation, une plainte de l'association malienne Malico pour des faits datant de 2015. Malico accuse Jean-Yves Le Drian, alors ministre français de la Défense, d'avoir profité de sa position pour tordre le bras à Bika, alors président du Mali, afin, couverture, une entreprise bretonne, aujourd'hui appelée IDEMIA, obtienne le marché de fabrication des passeports maliens en remplacement d'une entreprise canadienne. Évidemment, ce qui figure dans ce rapport et qui met en lumière l'activité de Le Drian à titre de l'un des membres les plus actifs de la mafia bretonne en France et qui montre à quel point le Mali occupé et son président et ses institutions se trouvaient victimes des immixtions et des actes interventionnistes de la France, et ce, aux dépens des intérêts suprêmes du peuple malien, n'est que la pointe de l'iceberg, car l'ex-ministre de la Défense, dont le mandat a duré de 2012 à 2017, compte pas moins de 25 cas de massacres commis sous son ministère à travers le Mali et attribués au groupe terroriste qu'on sait désormais naître que des agents des services secrets franco-otaniens. En voici quelques exemples. Rien qu'en 2013 est rapporté par Wikipédia, dont les infos sont particulièrement canalisées par Empire médiatique. Le 9 janvier 2013 à Kona, 7 soldats maliens, dont 5 blessés, sont exécutés sommairement par des djihadistes pendant la bataille de Kona, selon Human Rights Watch. Les 14 et 15 janvier 2013 à Diabali, 5 soldats maliens blessés et un civil ont été exécutés sommairement par des djihadistes pendant la bataille de Diabali, selon Amnesty International. Le 14 février 2013, au moins 5 personnes, dont 4 Arabes et un Songhai, sont enlevées à Tombouctou et portées disparues depuis. Human Rights Watch déclare: notre recherche suggère que les hommes ont été arrêtés par des soldats et il semblerait qu'ils aient été tués quelques jours plus tard alors qu'ils se trouvaient sous leur contrôle. Le 11 mars 2013, 4 commerçants sont égorgés par des hommes armés entre Tonka et Bintagungu. La presse malienne accuse les djihadistes. Évidemment, cette liste, largement manipulée par le langage médiatique occidental qui tente de montrer que ce sont les Maliens qui s'entretuent et non pas des armées d'occupation qui le font, déguisée en population locale, ne tient pas compte des bombardements entiers sur les villes et villages maliens dont l'ordre venait droit de l'état-major de M. Le Drian. Ces mêmes frappes que la défense française organisait, tout en mettant à profit les failles d'un état malien sous occupation qui ne disposait pas de son armée ni de ses institutions pour cause justement de ses ingérences et qui recevait des coups doubles, de la part de la France et de la part des terroristes. Or, la convocation de Le Drian n'augure rien de bon pour les criminels de guerre occidentaux qui ont fait de la CPI un moyen de chantage contre les dirigeants africains, un moyen qui leur réserve une totale impunité, alors qu'ils devraient répondre de tous les crimes commis à l'encontre de l'Afrique et ce, pendant des années. Car n'en déplaise à Le Drian, le problème au Mali n'est pas qu'une entreprise bretonne ait pris la place d'une entreprise canadienne. Le problème est que l'occupation française a nui au fondement de l'État, a coûté la vie à des centaines de Maliens, peut-être milliers, puisque après 9 ans, l'armée commence à découvrir des charniers à l'intérieur même des bases militaires que Barkhane occupait. La démarche de la justice malienne signifie une chose, que les criminels de guerre soient prêts à être rattrapés par la justice africaine. Alors qu'en pleine campagne de détachement malienne de l'axe d'occupation, ce dernier a se décidé de se rapprocher davantage de ses voisins africains, dont le Togo, il semblerait que l'axe déstabilisateur soit sorti de ses gonds, et c'est en mettant en place des plans de déstabilisation anti-Togo que cette panique occidentale fait surface. En effet, ce mercredi 11 mai, les informations font état des attaques terroristes contre le Togo. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai, des hommes armés s'en sont pris au poste de sécurité de Pinkankandi dans le canton de Kanjouaré, à la frontière avec le Burkina Faso. Les autorités togolaises confirment ce mercredi 11 mai un bilan élevé. L'attaque a eu lieu dans la nuit. Les assaillants sont arrivés en moto depuis le Burkina voisin. Certaines sources évoquent une soixantaine d'hommes armés qui s'en sont pris directement au poste de sécurité frontalier. Les échanges des tirs ont duré jusqu'au petit matin. Les assaillants ont vaqué à leur occupation. Certains se sont notamment douchés dans le barrage situé non loin de là, c'est ce qu'on a indiqué à RFI des habitants qui se sont entretenus avec les assaillants. Dans un communiqué, le gouvernement a condamné cette attaque barbare, rassuré les populations de la détermination des forces de défense et de sécurité, les appelant à collaborer pour préserver l'intégrité du territoire. Dans un rapport publié en février, l'Institut français des relations internationales s'interroge sur la possibilité pour les pays côtiers de devenir une nouvelle terre d'expansion pour les groupes terroristes. Le Bénin a déjà frappé plusieurs fois à sa frontière avec le Burkina en février et en avril. Mais alors que jusqu'ici le Togo était l'un des alliés des États-Unis et entretenait de bonnes relations avec les États-Unis, et que ce pays a été adhéré à un programme international de prévention des conflits avec les États-Unis, ces attaques revêtent une importance particulière. En effet, le Togo se trouvait entre autres à l'abri des attaques perpétrées par terroristes interposés, mais quand par hasard et dès que ce pays commence à changer de stratégie et de renforcer ses liens avec le Mali, la situation change et les déstabilisations commencent. Les déstabilisations contre le Togo ne s'arrêtent pas là, et le média colonialiste RFI parle de l'augmentation des prix du carburant qui aurait causé des crispations à Lomé. À la station d'essence Douando à Goué et Sogobisito, où chaque matin les élèves enfourchent les motos pour l'école, un conducteur vient de finir de discuter le prix de la course avec son client. Sincèrement, ça ne va pas. Avant, c'était à 450 francs CFA, c'est monté à 600 et maintenant 625. Ça ne va pas. Je ne sais pas comment ils nous voient dans ce pays. Nous sommes des émigrants mototaxi. C'est avec ça que nous vivons. Nous sommes des diplômés. Mais comme il n'y a rien, on vient de se débrouiller avec les motos. Le pire encore est qu'ils augmentent le carburant, mais les clients ne les savent pas. Le Togo se trouve clairement dans le viseur de l'axe US OTAN et devrait se tenir prêt de nouveaux actes de sabotage contre le pays. Mais il est sûr que la donne a changé en Afrique et une coalition et union interafricaine sans précédent est en train de naître et de s'étendre à une vitesse inimaginable. En Guinée, l'organe législatif fixe à 3 ans la durée de la transition. En effet, l'organe législatif de la transition a adopté hier en session plénière mercredi 11 mai le chronogramme qui doit permettre le retour à l'ordre constitutionnel. C'était attendu, mais le vote a réservé une surprise. La durée de la transition a été revue à la baisse. Nous avons évoqué cette situation et revu la situation en Guinée avec Luc Michel, géopoliticien. Écoutons-le.
Ce sont les aléas des complots occidentaux contre la Guinée. Quand ils ont mis au pouvoir le lieutenant-colonel Doumbouya, il s'agissait d'éliminer Alpha Condé et son régime, qui était trop proche de la Russie et des Chinois. Et Doumbouya a été mis au pouvoir par l'Africom. On dit même que c'est la guerre privée des mercenaires, donc de l'ambassadeur des États-Unis à Conakry, qui se sont emparés pour lui de la télévision. C'est un officier de liaison de l'Africom avec l'armée guinéenne, donc il offrait toutes les garanties. Et ancien légionnaire marié à une Française et à une Allemande, il offrait toutes les garanties vis-à-vis de la France et de l'OTAN. Mais il s'est retrouvé confronté aux réalités du pouvoir et rapidement il a refusé d'être une marionnette des Occidentaux. Quand la CEDEAO a adopté le train de sanctions contre le Mali, il s'est rendu compte que les sanctions allaient détruire son économie, qui est étroitement interdépendante du Mali. Il a donc refusé d'intervenir. Les choses se sont compliquées avec le dossier ukrainien. Vous savez que la Guinée-Conakry, c'est l'épicentre de ce qu'on appelle la guerre des mines, qui est une guerre qui oppose des groupes israéliens, des groupes américains et les groupes de George Soros, qui a un empire des mines en Amérique latine et en Guinée-Conakry. Il y a notamment la firme israélienne de Benny Steinmetz, qui est l'ennemi de Soros et de Netanyahou. Et il y a donc le groupe Rio Tinto proche de Soros. Maintenant, évidemment, dans cette affaire, les choses se sont compliquées avec le dossier ukrainien, puisque les deux grands concurrents dans la guerre des mines en Guinée-Conakry, c'est un groupe ukrainien et un groupe russe. Et la Guinée-Conakry a refusé de prendre parti, comme le demandaient les Américains pour les Ukrainiens, et a au contraire pris le côté des Russes. Voilà donc ce qui se passe en prolongeant la transition, évidemment. C'est une volonté de rester au. Oui, on va avoir la même chose qui va se passer avec le Mali, mais on peut déjà attendre des pressions similaires contre le Sénégal ou par exemple contre le Gaz. Les Européens et l'OTAN donc, comptaient sur l'Algérie et le Sénégal pour fournir l'Europe en gaz pour remplacer le gaz russe. Et suite à l'intervention, l'entretien téléphonique du président Tebboune avec Vladimir Poutine et la visite de Lavrov à Alger, on sait que les Algériens ne fourniront pas le gaz. Et au sommet des États producteurs du gaz à Doha, le Sénégal s'est rallié à la majorité, c'est-à-dire des États pro-russes, mais également les Émirats et les Qataris, et ils soutiennent toute la position du bloc de l'Est. Donc il faut s'attendre à de plus en plus de sabotage et de plus en plus de pression. Mais je pense que ça sera vain parce que les gens qui ont pris le pouvoir à Conakry, ils ne veulent pas être instrumentalisés, ce n'est pas des gens qui ont envie de lâcher le pouvoir.
Au Ghana, le Cocobot veut distribuer 140 millions de plants de cacaoyer en 2022-2023. La division de production de semences affiliée au Conseil ghanéen de cacao, Cocobot, a entrepris la production de 140 millions de plantes de cacaoyer hybrides en marge de la saison agricole 2022-2023, rapporte Ghana News. Selon les autorités, ces plantes seront distribuées gratuitement aux agriculteurs pour remplacer les cacaoyers vieillissants et ceux qui ont été détruits dans le cadre de la lutte contre la maladie virale de Swollen Shot. Plus largement, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de réhabilitation des vergers de cacao déployé par le gouvernement. TechCrunch a indiqué à ce jour qu'une plainte a été déposée au Kenya contre Meta et Sama, ce dernier est le principal sous-traitant du géant américain en ce qui concerne la modération du contenu en Afrique. Le plaignant est M. Daniel Motong, un ancien modérateur de contenu et lanceur d'alerte de Facebook. Selon le cabinet Zuli et Sumbi, qui défend ses droits, le plaideur estime avoir été licencié pour avoir organisé une grève en 2019 et essayé de syndiquer les employés du sous-traitant pour la défense de leurs droits. L'acte d'accusation est d'autant plus grave que M. Daniel Motong y déclare que Sama aurait soumis ses modérateurs de contenu au travail forcé et à la traite des êtres humains. Un environnement de travail très toxique chez Sama, le sous-traitant de Meta est une entreprise spécialisée dans la modération de contenu sous les différents réseaux sociaux. Pour cela, il emploie un certain nombre de personnes qui vérifient régulièrement les publications des utilisateurs de plusieurs plateformes sociales, ce qui leur permet d'éliminer les publications jugées haineuses ou violentes. Le ministère du Commerce et de l'Industrie du Tchad et la Commission économique pour l'Afrique ont organisé ce 10 mai, à l'Hôtel de l'Amitié à N'Djamena, un atelier de validation de la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, co-présidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Dija Kampar, le représentant de l'Union européenne, Jean-Claude Malongo, et celui du système des Nations Unies à N'Djamena, Adama Ekber Koulibaly, la rencontre est l'opportunité de présenter la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la ZLECAF. L'atelier vise à faire valider la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF à travers laquelle le Tchad peut identifier les opportunités commerciales et d'industrialisation, les contraintes, ainsi que les mesures nécessaires pour profiter des marchés nationaux, régionaux, voire mondiaux, dans le contexte de la ZLECAF. Présidant l'atelier, le ministre du Commerce et de l'Industrie du Tchad souligne que les défis du commerce au Tchad sont nombreux et très diversifiés. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Saleh Merzoug, a déclaré que la Mauritanie a pris des mesures importantes dans le domaine de la promotion des droits de l'homme à travers la révision de la loi criminalisant les pratiques esclavagistes et l'adaptation de certaines dispositions avec les accords internationaux. Le ministre qui s'exprimait lors de la conférence sur les droits de l'homme, la société civile et la lutte contre le terrorisme à Malaga a ajouté que parmi ces mesures, la mise en place d'un mécanisme national pour la prévention de la torture, indépendant administrativement et financièrement, et le renforcement des capacités de la Commission nationale des droits de l'homme et l'Association des organisations de la société civile. Le ministre a évoqué les défis liés au développement, à la sécurité et à l'écologie dans le monde, après la pandémie du coronavirus qui a consacré le changement du concept traditionnel des droits de l'homme qui n'est plus lié seulement à une série d'exigences théoriques sectorielles, mais pour lequel il est devenu plutôt nécessaire d'adopter une approche globale et multidimensionnelle pour l'examiner.